Merci d'écouter RFI. Il est 15h ici à Paris, 1h de plus à Jérusalem, 9h à Washington.
Simon Bourtembourg.
Des milliers de déplacés sur le chemin du retour après le début de la trêve entre le Hamas et Israël. Un cessez-le-feu entré en vigueur avec 3 heures de retard ce matin après que le Hamas a publié la liste des 3 otages israéliens qui doivent être libérés dans les prochaines heures. Reportage à suivre également dans ce journal sur la route entre Idlib et Damas. Nous verrons comment les habitants de cette région syrienne sont désormais libres de voyager et de retrouver leur famille depuis la chute de Bachar al-Assad. À la une également, aux États-Unis, jour J-1 avant l'investiture de Donald Trump. Il est arrivé hier soir à Washington où il prêtera serment lundi. Le républicain qui devra se positionner sur le dossier TikTok dès le début de son mandat. Et puis, en France, l'avenir du nouveau Front populaire en danger. Jean-Luc Mélenchon et François Hollande s'invectivent à part médias interposés, nous le verrons. Les premiers camions d'aide humanitaire entrent dans Gaza ce dimanche après le début du cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hamas. Une trêve qui prévoit par ailleurs un échange de 33 otages israéliens contre 737 prisonniers palestiniens. Des libérations en plusieurs étapes étalées sur 6 semaines. On connaît l'identité des 3 premiers otages qui seront libérés. Il s'agit de civiles israéliennes âgées de 23 à 30 ans. Pour ce qui est des prisonniers palestiniens, pour le moment, la plupart des noms annoncés sont ceux de femmes et d'enfants. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour Simon.
Théo, dans la liste des détenus qui seront libérés par Israël, il y a aussi des terroristes palestiniens.
Oui, par exemple, Mohamed Abou Ouarta, lui, est condamné à 48 peines de prison à vie pour 2 attentats à Jérusalem il y a 29 ans. Attentat pour le compte du Hamas, bilan 45 morts. Autre profil qui devrait être libéré, selon la presse israélienne, Tabet Mardawi, haut responsable du djihad islamique, arrêté il y a 23 ans pour avoir assassiné 20 Israéliens et blessé 150 autres, condamné à la prison à vie 21 fois par la justice israélienne. De probables libérations qui scandalisent les familles endeuillées de ces attentats, dépôt de recours devant la justice, déboutés. Les juges estiment qu'ils n'ont pas à interférer. Sur les 95 noms publiés, notez jusqu'ici quand même que seuls 10 sont condamnés. Tous les autres sont pour la plupart des femmes et des enfants. Ils doivent être transférés vers Jérusalem et la Cisjordanie et Gaza dans des bus israéliens pour éviter, je cite, toute expression de joie.
À Théo Renaudon du service international de RFI, merci à vous. Et alors que dans la bande de Gaza, les armes se sont tues ce matin avec 3 heures de retard sur l'horaire annoncé. Des milliers de Palestiniens déplacés par la guerre à Gaza ont déjà pris la route pour rentrer chez eux. Des déplacements de civils qu'on observe également en Syrie, et ce depuis la chute de Bachar al-Assad. L'ONU annonce que 200 000 Syriens sont retournés dans leur pays depuis le coup de force des rebelles mené par Ayad Tahrir al-Sham, des hommes et des femmes qui peuvent donc maintenant se déplacer librement en Syrie. Longtemps enclavés, bombardés par le régime, les 4 millions d'habitants de la poche rebelle d'Idlib peuvent à nouveau voyager. Des premiers déplacements, souvent destinés à retrouver des familles qu'ils n'ont pas vues pour la plupart d'entre eux durant 10 ans. Reportage sur la route entre Idlib et Damas de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Le bus démarre en trombe. À l'intérieur, une quinzaine de personnes embarquent, direction le centre-ville de Damas. Sur les genoux, de gros sacs, sur les lèvres, un sourire, une pointe d'excitation dans les yeux. Mustapha n'est pas sorti d'Idlib depuis 12 ans, son premier voyage depuis la chute du régime. Son frère l'attend à l'arrivée.
Now I'm 20 years old.
Aujourd'hui, j'ai 20 ans. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais enfant. On se sent si bien quand on sait qu'on va voir quelqu'un qu'on n'a pas vu durant tant d'années. Quand je vais le voir, je vais le prendre dans mes bras.
À ses côtés, Ahmed, 10 ans qu'il était réfugié en Suède. Ce trajet, il l'a fait dans le sens inverse il y a 2 semaines pour retrouver Idlib, sa ville natale, sa maison détruite par les bombes et ses 2 parents.
C'était un super moment. On a vraiment passé du bon temps avec mon père et ma mère. J'ai fait pour ça un très long voyage, près de 20 heures au total.
Depuis la chute du régime, une centaine de bus font le trajet chaque jour. Aucun siège n'est laissé vide. Mohamed, le chauffeur, n'en revient toujours pas.
Nous sommes restés durant 14 ans enfermés dans un état de choc. Nous, les conducteurs, n'avions plus de travail. C'est comme un rêve de pouvoir retourner sur cette route. Quand je conduis, c'est le meilleur sentiment du monde.
À l'arrivée, une foule attend le bus. Un homme s'en détache, le frère de Mustapha. Les 2 hommes se tombent dans les bras. Manon Chaplin à Damas, RFI.
De nouveau au combat au Soudan. 14 civils ont été tués lors d'une attaque de paramilitaires à l'est d'El Fasher, la capitale assiégée du Darfour Nord. La ville est le théâtre des combats les plus féroces de la guerre au Soudan, alors que l'armée se bat pour conserver son dernier point d'appui dans cette vaste région du Darfour. Donald Trump est arrivé à Washington. Le républicain est depuis hier soir dans la capitale américaine pour une réception dans l'un de ses golfs. Le lancement de 4 jours de festivités dont le point d'orgue sera son investiture demain comme 47e président des États-Unis. Pour son retour à la Maison-Blanche, le président élu a promis une flopée de mesures qui seront souvent prises par décret. Dès le premier jour de son mandat, il souhaite notamment mettre fin au droit du sol qu'il juge ridicule. Autre dossier qui attend l'administration Trump, le dossier TikTok. TikTok a mis fin à l'incertitude qui planait depuis vendredi. Le géant chinois n'a pas attendu l'application de la loi américaine et a de lui-même rendu inaccessible son application en ligne pour les 170 millions d'utilisateurs américains. Vendredi, la justice avait acté les sanctions contre l'application pour empêcher le vol des données d'utilisateurs américains et manipuler l'opinion américaine. Charlotte Cosset.
Une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour l'instant. Voici un extrait du message que peuvent lire aujourd'hui les utilisateurs américains. Si la loi prévoyait d'interdire les téléchargements et les mises à jour, le groupe chinois a préféré bloquer complètement son usage. Dans son message, TikTok précise « Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il allait travailler avec nous à une résolution. Restez branchés. » Président qui en 2020 souhaitait interdire TikTok, Donald Trump, dans une interview à la presse américaine, a déclaré envisager un report de l'application de la loi de 90 jours, une annonce qu'il pourrait faire dès ce lundi lors de son investiture. Parmi les options du groupe chinois Biden's, la vente de sa filiale, une proposition de 20 milliards de dollars de l'homme d'affaires Frank McCourt est sur la table. Hier, c'est la start-up d'intelligence artificielle Perplexity qui a fait une proposition de fusion, mais jusqu'à présent, son propriétaire, invité d'honneur à l'investissement de Donald Trump, s'est toujours refusé à vendre.
À précision, signée Charlotte Cosset. En Colombie, l'armée de libération nationale impliquée dans des combats qui ont fait 60 morts hier. Une attaque sanglante de la guérilla de l'ELN donc contre des civils. Arrivé au pouvoir avec l'engagement de rechercher une solution négociée à 6 décennies de conflits armés, Gustavo Petro a annoncé vendredi suspendre les négociations de paix avec l'armée de libération nationale. En France, l'avenir du nouveau Front populaire s'écrit en pointillé. La rupture semble consommée entre le Parti socialiste et la France insoumise. Le PS ne votera pas la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Un texte qui avait été pourtant déposé par LFI et ce avec le soutien des communistes et des écologistes, les autres partis membres du NFP. Donc ce dimanche, pour Jean-Luc Mélenchon, c'en est trop. Le chef de file de LFI estime que le PS n'est désormais plus un partenaire.
Nous sommes meurtris parce que nous nous sentons trahis. C'est une évidence. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est une des grandes questions qui est posée, puisque le Parti Socialiste, à l'évidence, comme l'a dit Éric Coquerel, n'est plus un partenaire. C'est un allié, et encore de circonstances, puisque dans une motion de censure, c'est quand même fondamental. Vous savez que la censure, c'est ce qui distingue la majorité de l'opposition. Ce fait a l'air d'être considéré comme un détail, mais c'est une question de fond. C'est d'ailleurs pourquoi la vérité politique, madame, n'a pas éclaté cette fois-ci, puisqu'ils continuent à dire qu'ils sont dans l'opposition. Les socialistes, personne n'y comprend rien. Ils votent pas les censures, mais ils sont toujours dans l'opposition. C'est quand va arriver le vote du budget. Mais s'ils votent le budget, et s'ils ne votent pas la censure du 49-3, on pourra dire qu'ils ont rompu l'union.
Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, il était l'invité du grand jury RTL M6 Le Figaro Public Sénat. Un mot de sport et de tennis à présent pour refermer ce journal. Novak Djokovic rejoint Alcaraz en quart de finale de l'Open d'Australie. Les deux joueurs vont même s'affronter donc sur les courts à Melbourne. Gare pour le Serbe à la fraîcheur du numéro 3 espagnol. Carlos Alcaraz a bénéficié d'un abandon pour passer au prochain tour. À noter également sur le tableau féminin cette fois, ce dimanche, les victoires d'Arina Sabalenka et Coco Gauff qui sont toutes deux qualifiées pour la suite de la compétition. RFI, 15h bientôt passées de 10 minutes ici à Paris, 1 heure de moins en temps universel. Restez bien à l'écoute de RFI, votre prochain journal, c'est dans 50 minutes sur la Radio du Monde.